Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Pascal Massirika à la présentation.
Les titres de l'actualité exaspérés. Une frange d'habitants de la ville de Kinshasa suggère au président Félix Tshisekedi Tshilombo de remplacer la première ministre. Incapable, selon eux, de former le nouveau gouvernement, ils font remarquer que le train de vie des Congolais ne fait qu'empirer. Arrestation hier après-midi de 5 miliciens Mobondo à la frontière du Kwilu et du Kwango. C'était à la faveur des affrontements avec les FARDC pour sécuriser la zone en proie à la violence. Notre invité fait le point focal de l'Union congolaise des femmes de médias de Beni au Nord-Kivu. Julie Londo affirme qu'une cinquantaine de jeunes du quartier Ngongolio ont été sensibilisés ce week-end à l'expression de la non-violence au cours d'une activité organisée par la MONUSCO. Madame, messieurs, bonsoir. Des habitants de la ville de Kinshasa se disent exacerbés d'atteindre la publication du nouveau gouvernement plus de 4 mois après la prestation des serments du président Félix Tshisekedi Tshilombo. La RDC n'a toujours pas de nouvel exécutif national. D'autres suggèrent carrément au chef de l'État de remplacer la première ministre qui est incapable, selon eux, de former son gouvernement. Écoutez-les au micro de Blaise Chinani Kambala, Alpha Mpoissa et Elvi Kungé.
En tant que Congolais, on se pose la question, comment est-ce qu'on est administré? Parce que nous devons être administrés. Comment est-ce que nous sommes gérés? Bon, comment est-ce que le gouvernement s'organise pour payer 2 gouvernements à la fois? C'est aux frais de qui? Des trésors publics. Ce sont des dépenses doubles qui doivent être peut-être allouées à d'autres choses, d'autres responsabilités, d'autres projets du gouvernement. Et maintenant là, où est-ce que le gouvernement trouve de l'argent à payer le gouvernement sortant, mais qui n'est pas encore sorti, le gouvernement qui est en place, mais qui est là, qui doit travailler, mais qui ne sait pas encore travailler?
Je trouve la situation pas bonne d'abord, parce que nous sommes dans un pays sous-développé et le fait de dépenser de l'argent sans but, parce que nous sommes en train de gérer 2 gouvernements, ça mène encore plus de dépenses dans le pays. Alors que nous avons déjà beaucoup de situations à régler, sans compter de l'Est.
La situation, elle est vraiment critique, ça c'est de 1. Nous sommes victimes de caprices de certains chefs de regroupement politique. À mon humble avis, à un moment donné, le chef de l'État doit se débarrasser de certaines choses. Et il doit mettre loin de son autorité ces caprices-là. Et j'irai pour conseiller à nos autorités, à nos frères politiques qui nous gèrent, de savoir que c'est la population qui en pâtisse.
Contentieux électoral. Le Conseil d'État enjoint à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de réorganiser l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Congo central. Hier soir, ici à Kinshasa, le Conseil d'État a décidé d'annuler l'élection de Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central pour raison d'irrégularité. Et puis, des médias américains rapportent que les États-Unis d'Amérique sont disposés à alléger les sanctions contre l'homme d'affaires Dan Gekler. Mais dans le contexte actuel, des acteurs de la société civile s'opposent carrément à cette décision qui favorise, selon eux, l'impunité. Explication de Cynthia Bachizina Bizana.
En 2017, les États-Unis ont sanctionné Dan Gertler pour corruption et violation des droits humains dans le cadre de ses activités minières en RDC. Il a été ainsi banni du circuit bancaire en dollars américains. Pour le coordonnateur national de Filimbi, membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, il est trop tôt pour évoquer une quelconque levée de sanctions qui pèse sur le milliardaire israélien Mino Bopomi.
Dan Gertler avait profité de son amitié étroite avec l'ancien président Joseph Kabila, pour servir d'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers en RDC. Et ainsi, obligeant certaines sociétés multinationales à passer par lui pour faire affaire avec l'État congolais. Et il est aujourd'hui très clairement démontré qu'à la suite de ces actions de Dan Gekler, la RDC a perdu, donc entre 2010 et 2012, un montant évalué à 1,3 milliard de dollars de revenus dû à la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été par la suite revendus à des sociétés offshore liés appartenant à Adam Gettler.
Pour les acteurs de la société civile, aussi longtemps que la RDC ne sera pas rétablie dans ses droits et récupérée 100% du manque à gagner occasionné, les sanctions américaines doivent être maintenues.
Autre nouvelle sur Radio Okapi ce soir, 5 miliciens Mobondo ont été arrêtés hier après-midi lors d'affrontements survenus avec les FARDC à la frontière du Kwilu et du Kwango. Une femme fétichiste qui tenait les forces obscures des assaillants a également été appréhendée. Annonce faite à Radio Okapi par le député national élu de Bagata, Gary Sakata, est au micro d'Irène Bomaluzolo.
Il y a eu des affrontements entre le FARDC et les miliciens faisant partie du groupe Mobondo. À la suite de ces affrontements, non-voyantes forces armées ont mis la main sur quelques miliciens Mobondo, à peu près 5. Et ils ont également mis la main sur une dame qui initiait ces Mobondo aux pratiques fétichistes. Tout ce petit monde se trouve être à Fatundu, où ils seront certainement acheminés vers Banunduville, où ils seront transférés à la prison centrale de Bandundouville et éventuellement auditionné par le parquet. Il y a eu effectivement plusieurs blessés parmi les civils et nous demandons donc l'appui de l'État qu'il puisse prendre en charge les 6 personnes qui sont gravement blessées et qui sont au centre de santé de Kingalamatele ainsi que à l'hôpital de Kikongo en territoire de Bagata. Nous saluons et félicitons nos vaillantes forces armées qui ont amélioré leur mode opératoire en étant sur le site en vue de maîtriser tous ces criminels et bandits Mobondo.
J'ajoute que l'administrateur du territoire de Bagata plaide pour le renforcement du dispositif sécuritaire dans cette zone en proie à la violence. Au Nord Kivu, pendant 7 ans, des milliers de déplacés de guerre ayant trouvé refuge récemment à Minova et à Bweremana ont reçu hier après-midi du gouverneur une première assistance. Le général Peter Chirimwami leur a remis des vivres et des non-vivres, de quoi soulager leurs souffrances. Ces ménages sont venus de la chefferie de Baoundé dans le territoire de Masisi. Le récit de Bernard Nenyangi.
Venus entre autres de Ngungu, Bweremana, Murambi, Karuba et Ngumba dans le territoire de Masisi depuis plusieurs mois déjà, ces déplacés se réjouissent d'être visités et assistés pour la première fois par l'autorité de la province du Nord Kivu. C'est comme en témoigne ici Baati Munguiko, leur président.
Nous sommes contents de voir notre gouverneur puisque nous étions délaissés ici à Bweremana et à Kashenda. Il nous a amené des habits, des souliers, de l'huile, la farine, du riz, du sel.
Cette visite visait à réconforter cette population victime de la guerre du M23, précise la conseillère du gouverneur en charge des questions humanitaires.
L'autorité provinciale s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population, évaluer la situation dans laquelle vivent les déplacés de guerre, afin de mener des plaidoyers parce que d'un côté c'est la guerre, mais de l'autre côté c'est l'humanitaire.
Ces propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat. Rappelons qu'à l'issue de cette visite humanitaire, le gouverneur Peter Chirimwami a ordonné l'évacuation vers une structure sanitaire d'une femme déplacée qui a été victime de blessures par des éclats d'une bombe larguée il y a quelques jours par les rebelles du M23 RDF. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, 2 morts dont un policier, bilan d'une altercation survenue ce mardi matin entre la police et des hommes armés au quartier Vukano dans la commune rurale de Lubero. L'administrateur du territoire de Lubero affirme à Radio Okapi que ces assaillants se sont livrés à l'exploitation clandestine de bois dans une concession appartenant à un prêtre de la zone, ce prêtre qui a fait appel à la police nationale. C'est alors qu'ils s'en sont pris aux policiers dont ils ont tué un. Le colonel Alain Kiwewa affirme qu'un exploitant a même été tué. L'administrateur du territoire de Lubero ajoute qu'une enquête a été ouverte. Montée de banditisme ce jour-ci dans la ville de Kalemie. Des cas de cambriolage sont signalés tous les jours dans plusieurs maisons de la ville. Le bilan fait état de 2 personnes agressées à la machette et un présumé voleur brûlé vif par la population. Face à cette situation, le maire interdit formellement la circulation de motos à partir de 22h dans cette ville du Tanganyika. Le point de la situation avec vous, Paul Munanga.
Les derniers cas en date se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Au quartier Kitoukou, dans la commune de la Lukuga à Kalemi, des sources rapportent que des voleurs ont emporté les biens d'une maison et blessé les propriétaires avec une machette avant de disparaître dans la nature. Sur l'avenue Maïto, au quartier Kataki 1, dans la commune de Kalemi, des témoins renseignent qu'un présumé voleur qui a tenté d'emporter des bidons vides a été attrapé par la population puis brûlé vif. Le chef d'avenue condamne ce cas de justice populaire. Dans la nuit de samedi à dimanche, des sources signalent que des malfrats munis d'armes blanches ont attaqué plusieurs maisons sur les avenues Tanganyika et de la Paix 1 dans la commune de la Lukuga. L'une des victimes annonce que des bandits ont blessé son enfant de 13 ans à la tête à l'aide d'une machette. Face à cette insécurité, le maire de Kalemi a dans un communiqué officiel limité à dater de ce mardi la circulation des motos dans la ville à partir de 22h et la circulation reprend à 5h du matin. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et puis en Mbujimayi, chef-lieu du Kasaï oriental, la police nationale a arrêté hier des délinquants qui sèment terreur et désolation dans quelques quartiers de la commune de Dioulou. Ils ont été appréhendés lors d'une altercation entre eux-mêmes, non loin du rond-point Ozana après une fête. En Mbujimayi, explication d'Esther Dalafina.
Les témoins affirment que ces deux bandes de jeunes délinquants ont été appréhendés par les éléments de la police lorsqu'ils livraient un combat pendant la journée avec des armes blanches non loin du rond-point Ozana dans la commune de Dioulou. Leurs chefs de bande ont réussi à prendre le large, précisent les sources policières. Elles indiquent par ailleurs que ces deux bandes de jeunes délinquants ont perturbé le week-end dernier une fête où certains d'entre eux ont été conviés à prendre part. Les éléments de la police les ont dispersés quelques heures plus tard. Après leur arrestation ce lundi, ils ont été conduits d'urgence au palais de justice. Un procès en flagrance est donc envisagé dans les heures qui viennent. Mais déjà, ces jeunes ont passé leur première nuit à la prison centrale de Mbujimayi. Signalons que plusieurs quartiers de Mbujimayi sont actuellement secoués par des actes de barbarie, des bagarres à la machette et d'extorsion commis par des groupes de jeunes délinquants. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, des câbles électriques aériens, Kinshasa, la capitale, en compte des kilomètres. Un phénomène qui s'est développé à la suite de la détérioration des anciennes lignes souterraines de la SNEL. Ce phénomène modifie totalement même la vue aérienne dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Cette situation inquiétante risque de mettre en péril le train de vie des habitants de la capitale. Le récit de Babel Mpongo Simango et Marie-France Mungindu.
Lorsqu'on circule dans plusieurs quartiers de Kinshasa, on se croirait sur le passage de l'homme araignée au Spider-Man. Des câbles électriques aériens sillonnent les rues, ils pendent, sont dénudés par endroits, touchent même le sol avec tous les risques d'électrocution. Il leur arrive aussi de prendre feu, mettant des parcelles voisines en danger. Les Kinois, surtout ceux qui ont leur habitation ou leurs activités à côté des câbles à problème, s'inquiètent. Ils appellent la SNEL à mettre de l'ordre dans ce domaine.
Il y a beaucoup de risques. S'il pleut, nous pouvons passer en dessous ici. Il y a une masse. Les enfants peuvent facilement être électrocutés. Il arrive que les câbles se coupent, ça peut traîner une ou deux semaines sans intervention de la SNEL.
À la SNEL, Denis Tukuzu, son directeur provincial à Kinshasa, annonce que l'entreprise a mis en place un projet visant à résoudre ce problème.
La SNEL a mis en place avec la Banque mondiale un grand projet de remise en conformité du réseau qui va se faire de commune en commune. Les matériaux sont en train d'arriver pour que les toiles d'araignée puissent être complètement réparées. Si c'est un réseau souterrain, ce réseau souterrain va maintenant répondre à toutes les normes de la matière.
Ce projet, s'il se concrétise, contribuera à protéger des vies. Il aidera aussi à améliorer l'image de la ville dans plusieurs quartiers.
Actualité internationale.
Installation ce mardi à Lomé de la nouvelle Assemblée nationale au Togo. Les 113 députés qui ont été élus le 29 avril lors d'un scrutin très contesté siègent pour la première fois. Ils inaugurent ainsi la 5e République puisque l'Assemblée sortante a adopté pendant la campagne électorale une nouvelle constitution qui provoque déjà la colère de l'opposition et de la société civile. Au Mali voisin, le secteur de la presse est durement situation éprouvée ce jour-ci par les délestages. Certains journaux n'arrivent plus à paraître depuis des semaines. Même le quotidien d'État L'Essor n'est pas épargné par ces difficultés. Ce matin, le syndicat du journal a tenu une conférence de presse pour faire part de son ras-le-bol. Et puis un deuil national de 5 jours est décrété en Iran après la mort du président Ibrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. L'appareil qui transportait le chef de l'État iranien s'est écrasé dans une zone montagneuse près de l'Azerbaïdjan et au retour de l'inauguration d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais. Le bilan fait état de 9 morts, dont le ministre iranien des Affaires étrangères.
L'invité.
Notre invité, c'est le point focal de l'Union congolaise des femmes des médias de Beni au Nord-Kivu. Julie Londo affirme qu'une 50aine de jeunes du quartier Ngongolio ont été sensibilisés à l'expression non violente de l'opinion lors d'une activité organisée par la MONUSCO Beni. Elle s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Julie Londo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer des jeunes de l'Union des jeunes pour le développement et la reconstruction dans le quartier Ngongolo. C'était pour quelle fin?
Oui, au fait, on est venu pour échanger un peu avec le jeune de Ngongolo. C'est par rapport à la liberté d'expression. On a voulu échanger avec eux pour leur montrer qu'on peut exprimer ses opinions sans pour autant être violent. Et donc, on a échangé. On a aussi parlé de la désinformation et de la manipulation de l'information où ils nous ont montré qu'ils sont la plupart des fois victimes de la désinformation. Et du coup, on a eu le temps d'échanger avec eux, de leur montrer comment ils peuvent détecter une désinformation, comment ils peuvent détecter une manipulation de l'information.
Et pourquoi avoir choisi la jeunesse du quartier Ngongolio? Est-ce qu'il y a un mobile particulier?
Oui, au fait, les quartiers Ngongolio, c'est parmi des quartiers qui sont un peu chauds, qui sont la plupart des fois dans la rue pour manifester et tout. Donc, on sait que s'il y a manifestation, faut pas arriver à Ngongolio parce que c'est là même la base où tout se passe. Alors, on a dit, bon, pourquoi ne pas le voir? Et du coup, on a échangé, on a trouvé que ce sont juste des jeunes qui sont manipulés et qui ont promis dorénavant de vérifier chaque fois des informations avant d'entrer dans la rue.
Parmi les causes ou les raisons qui les poussent à beaucoup plus de manifestations violentes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement?
Oui, parmi les raisons, ils ont soulevé la manipulation de l'information, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a l'un qui nous a dit clairement que non, ils sont manipulés. Des fois, on leur dit que non, il y a un véhicule de la MONUSCO qui vient de passer avec des armes à bord, ils vont remettre ça aux ADF et tout. Et du coup, ils se disent, mais comment les gens qui sont censés nous sécuriser contribuent à notre insécurité? La plupart des fois, ce sont des leaders d'opinion qui manipulent l'information et le manipulent aussi. Ils suivent juste les informations dans la rue, dans les médias sociaux.
Et pour quelles raisons les leaders d'opinion manipuleraient l'opinion, si je peux me répéter
Oui, au fait, les leaders d'opinion manipulent la population, c'est pour ses intérêts. Ils peuvent être dans le gouvernement où ils ne savent pas répondre aux besoins de la population. Du coup, ils manipulent les informations contre quelqu'un d'autre pour se couvrir, quoi.
Bien, c'est aussi une façon de se prévaloir une certaine importance au sein de la communauté pour se faire une santé politique.
Tout à fait. C'est une façon aussi de se faire connaître parce que à Beni, nous savons que si vous voulez avoir une image, si vous voulez vous faire connaître, il faut commencer dans la rue et tout. On a certains leaders qui ont commencé dans la rue à manipuler les gens et puis un jour, ils se sont fait un nom. Du coup, tout le monde veut passer par là.
Est-ce que vous comptez étendre ce genre d'activité dans toute la ville pour essayer de toucher toutes les couches?
Oui, c'était notre but. On a commencé par Ngongolio et nous pensons qu'on peut, si nous trouvons des moyens, on peut même aller jusqu'à avoir des groupes de pression parce que l'UJDR n'est qu'une mutuelle de jeunes. Mais il y a maintenant ces groupes de pression là qui, eux aussi, ils sont dans des groupes de pression, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils entrent dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Et aussi, ce sont des gens à voir, à échanger avec et à leur montrer la vraie vérité et à leur montrer comment traquer une fausse information ou comment savoir qu'on est en train de manipuler une information. Voilà, et nous avons les soucis d'aller vers eux et d'échanger aussi avec eux. Donc nous projetons d'autres activités dans ces sens pour essayer un peu d'aller plus loin dans les groupes de pression, dans le mouvement citoyen, échanger aussi avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment besoin de la vraie information qu'ils n'ont pas.
Alors cette question ne concerne pas seulement la région de Beni, mais c'est toute la République. Quel message voudrez-vous lancer à toute la jeunesse du pays par rapport à l'expression pacifique ou non violente et de son opinion.
Oui, au fait, le message que je peux lâcher à toute la population de la République, c'est que la violence n'a jamais résolu un problème. Je crois que ça va faire bientôt 10 ans qu'on assiste à des manifestations violentes, mais on n'a jamais eu de solution à nos problèmes. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes persistent. C'est nous-mêmes, la population, qui en sommes encore victimes. Donc nous manifestons nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui subissons même les conséquences de ces manifestations violentes. Et donc, le message que j'ai pu lancer, c'est juste appeler la population à une expression non violente. Il y a plusieurs façons de s'exprimer et je crois que le gouvernement peut nous écouter, ça pour autant être violent. Donc, exprimons-nous, oui, parce que c'est un droit qui nous revient. Exprimons-nous, mais n'appliquons pas la violence parce que jusque-là, ça ne nous a rien apporté à part d'autres désolations.
Julie Londo, merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, le point focal de l'Union congolaise des femmes des médias de Beni au Nord-Kivu, Julie Longo, interrogée à Beni par Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelé Kipela Mondo à Kinshasa. Il est 18h20.